S'il est un constat sur lequel nous pouvons toutes et tous nous accorder, c'est qu'au regard des actualités que vous venez d'entendre sur Terre, tout va bien. Le monde est en bonne santé, l'ambiance est à l'entraide, à la protection des plus démunis. L'humanité, cette belle humanité que nous formons ensemble, toute l'équipe de Big Bang, vous et moi, a su, malgré les pièges et les obstacles, utiliser son bon sens pour créer des technologies en harmonie avec la nature qui nous nourrit, afin de soigner, de comprendre, d'alimenter nos cœurs et nos esprits. Et pourtant, malgré cela, certains êtres étonnants voudraient quitter notre planète pour installer l'humanité ailleurs, sur un autre monde, là où l'herbe leur semble être plus verte, là où l'amour et l'intelligence seraient à la fois roi et reine, enfin surtout roi. Mais voilà, quand on y pense un peu, si l'herbe leur semble être si verte là-bas, c'est justement parce qu'il n'y en a pas d'herbe là-bas. Par-delà la Terre, l'herbe n'existe que dans leur imagination. En réalité, vouloir vivre ailleurs que sur Terre est une drôle d'idée. Tous les mondes extraterrestres connus sont hostiles, terriblement hostiles. Il peut parfois sembler, lorsque nous sommes malmenés par des tempêtes, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, que la Terre est par endroits, par moments, infernale, et que le réchauffement climatique va rendre tout cela bien pire encore. Mais dès qu'on la compare à ce qui existe ailleurs, il n'y a plus aucun doute possible. La Terre est un paradis, un bijou précieux dans l'écrin du cosmos, une sorte d'Éden qui aurait non pas disparu, mais qui est bel et bien encore là, pour qui veut bien le voir. Ceux qui voudraient emmener l'humanité ailleurs font d'ailleurs en général justement partie de ceux qui ne voient pas cet Éden, ou pire encore, qui sont responsables de sa transformation. Alors que faire? Faut-il vraiment songer à partir? Pour ma part, je suis persuadé que non. Hormis pour la recherche scientifique, je ne vois aucune raison valable aujourd'hui d'envoyer qui que ce soit vivre au loin. Mais nous ne sommes pas seuls sur Terre. Et si certains organismes seraient légitimes pour quitter le navire, ce n'est pas nous, mais ceux qui n'ont rien demandé à personne. Alors, imaginez un monde dans lequel, un matin, les animaux et les plantes se disent soudain « Eh ben hop, nous partons, nous laissons la Terre aux humains, qu'ils se débrouillent sans nous ». La question qu'on pourrait alors se poser est la suivante. Quels animaux, quelles plantes seraient capables de survivre, voire de vivre, sur un autre monde? Quelles conditions extrêmes seraient-ils capables de supporter? Eh bien, c'est pour répondre à ces questions que nous allons aujourd'hui partir vers les endroits les plus extrêmes de la Terre pour comprendre comment certains animaux et certaines plantes se sont adaptés à ce que notre monde a de plus hostile. Et pour cela, j'ai avec moi trois invités très avenants que voici.
Bonjour, Anarita Simões, chercheuse en botanique du Missouri Botanical Garden et basée au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. J'étudie la flore africaine et je suis spécialiste aussi de la famille de la patate douce et des liserons des convolvulacées.
Anthony Herrel, directeur de recherche au CNRS. Je travaille au Muséum d'Histoire Naturelle et je travaille plutôt sur les adaptations des animaux à leur environnement.
Bonjour, je m'appelle Momoko Seto, je suis réalisatrice de films et créatrice d'une constellation de plusieurs planètes slash films, notamment Planète A, une planète peuplée des extraterrestres salins, Planète Z, une planète où des champignons et des plantes luttent pour leur survie, Planète Sigma, une troisième planète, une planète congelée où des insectes géants sont emprisonnés dans des icebergs, Planète Infinie qui abrite des énormes têtards, et enfin, une nouvelle planète qui sort le 11 mars où quatre graines de pissenlit oscillent entre plusieurs écosystèmes à la recherche d'un sol habitable.
Momoko Seto, Anthony Herrel, Anarita Simões, bonjour. Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct avec le public du studio 181 de la Maison de la Radio et nous allons parler des animaux et des plantes de l'extrême.
France Inter. Big Bang. Christophe Galfard.
Momoko Seto, vous créez donc des mondes dans votre tête. Et j'avais envie de commencer directement par vous demander, mais qu'est-ce qui vous a fasciné dans cette idée de peupler des mondes lointains avec des animaux peut-être imaginaires, peut-être terrestres?
Alors, c'est que des animaux terrestres, bien sûr, parce que nos animaux terrestres ressemblent drôlement à des extraterrestres quand on les regarde bien et qu'on est équipé des outils un peu particuliers, notamment le macro, donc les optiques qui agrandit, des techniques comme le time-lapse qui accélère le temps, donc qui transforme des végétaux en des serpents ou d'autres vivants comme des animaux, ou des hyper-ralentis qui va ralentir les mouvements des insectes et dont on va les transformer comme des dinosaures géants. Donc c'est des animaux qu'on connaît mais qu'on va les regarder autrement.
Et qu'est-ce qui vous fascine dans cette vision-là ? C'est d'avoir une autre facette de la réalité biologique qui nous entoure ?
C'est ça, c'est de créer de la science-fiction dans notre tête et dans notre imaginaire à travers des choses qui peuplent autour de nous, qui est aussi proche que ça, mais aussi lointain, et d'imaginer qu'ils ont une autre vie que nous, et qu'ils ont une autre façon de vivre, une autre façon d'être, qui est tout aussi fascinant.
Pour ouvrir nos esprits peut-être un petit peu sur la biodiversité qui est autour de nous et que finalement on ne connaît pas.
Exactement.
J'ai envie pour essayer de comprendre un petit peu comment des organismes, disons, pourraient s'adapter ailleurs. Moi, ce que je trouve génial dans ces recherches-là, c'est qu'effectivement, ça nous fait comprendre la vie qui existe déjà sur Terre. Et si on regarde les endroits extrêmes de notre planète, qu'on pourrait appeler des déserts, qui peuvent être, j'imagine, chauds, froids, il y en a différentes possibilités, on imagine dans nos têtes ces déserts comme étant des endroits où la vie n'existe pas. On va voir dans quelques instants que c'est loin d'être le cas. Mais peut-être, Anthony Herel, vous pourriez nous définir ce que c'est qu'un désert, ce que sont ces endroits extrêmes qui existent sur Terre ?
Oui, on va parler de désert typiquement quand il y a un manque en eau liquide disponible. Et ça veut dire que ça peut être des déserts chauds, mais aussi bien des déserts polaires froids, parce que l'eau liquide n'est pas disponible pour les animaux. Et donc ça impose une contrainte très forte sur les animaux, sur les plantes évidemment aussi. Et donc c'est la première contrainte. Deuxième contrainte, deuxième élément qui va caractériser les déserts, c'est les extrêmes de température. Température chaude, température froid. Et donc, de nouveau, le vivant est confronté avec ces extrêmes températures et doit trouver des solutions pour survivre. Et le troisième élément d'un désert, typiquement, c'est une espace ouverte. Espace ouverte où il est difficile souvent de rencontrer des congénères, d'autres individus de la même espèce, où il est difficile de se cacher. Il est difficile de trouver des proies pour se nourrir. Et donc, c'est vraiment les trois éléments qui vont caractériser des déserts sur notre planète.
Alors, des déserts, il y en a qui sont absolument gigantesques. Il me semble que le plus grand désert chaud, c'est le Sahara, qui doit faire dans les 9 millions de kilomètres carrés, ce qui fait à peu près 15 fois la France, en gros, et qui est un désert donc sec, comme vous venez de le définir, et chaud. Et pourtant, on trouve du vivant à l'intérieur. Alors, peut-être qu'on pourrait directement mettre derrière nous les deux espèces les plus emblématiques des déserts. Déjà, peut-être sur les plantes, Anarita Simoes, avec les cactus. Des cactus, est-ce qu'on en trouve dans tous les déserts chauds ? Vous savez ?
Oui, non, pas forcément dans tous les déserts, mais ils sont très caractéristiques des régions arides et sont l'exemple le plus commun dans les plantes qui peuvent résister à la chaleur, mais aussi, comme disait Anthony, au froid, parce que les nuits aussi, elles sont très froides et aussi à la manque d'eau. Et c'est leur stratégie, c'est d'accumuler, stocker de l'eau, comme des tiges succulentes, et les feuilles qui sont modifiées, qui sont très petites et qui deviennent des épines, pour ne pas perdre de l'eau avec la transpiration. Et c'est un exemple que tout le monde connaît, je pense, mais il y a beaucoup d'autres aussi très exceptionnels.
C'est quoi la définition d'un cactus ? C'est justement ça, c'est une plante peut-être qui arrive à maintenir de l'eau, des plantes, des feuilles toutes petites, des épines dans le désert.
Oui, bon, ça entre un petit peu dans des questions de classification des plantes, je peux vous dire en général, on pense à des plantes succulentes.
Ça veut dire avec des feuilles un peu grasses, c'est ça ?
Oui, qui sont charnues, qui accumulent de l'eau, toutes les plantes succulentes ne sont pas des cactus. Il y en a aussi des euphorbias, par exemple. Il y a des autres familles de plantes. Ça veut dire, au niveau de l'évolution, elles ne sont pas le même groupe de plantes. Elles ont des ancêtres différents, mais elles se sont adaptées au même milieu avec les mêmes stratégies. Alors, les succulents ne sont pas tous des cactus, mais les cactus sont un groupe de plantes qui sont succulentes, qui ont cette stratégie.
Pour exister, une plante, elle a besoin d'eau liquide, quoi qu'il arrive. Donc, la stratégie de ces plantes-là, c'est de trouver coûte que coûte un moyen d'accumuler de l'eau et éventuellement de la garder en elle, c'est ça ?
Oui, et là, ça peut être par des racines, par exemple. Il y a des plantes comme les mangroves, pas dans des déserts, mais aussi dans des environnements où il n'y a pas beaucoup d'eau ou d'oxygène. Les mangroves qui ont des racines aériennes qui sortent du sol, justement pour capter l'oxygène et le plus d'eau possible pour cet environnement. Il y a aussi, dans le désert de Namib, la Welwitschia mirabilis. Je pense que beaucoup de personnes peut-être ont déjà entendu parler. C'est une plante exceptionnelle qui n'a pas vraiment des fleurs comme on connaît des fleurs. Elle a des petits pommes de pin comme le sapin de Noël et deux feuilles énormes qui peuvent aller jusqu'à 6 mètres, on m'a dit. Et quand on trouve ça au milieu du désert de Namib, c'est très exceptionnel, c'est très intéressant. Et elle prend de l'eau, de l'air, des brouillards qui viennent du vent, de l'Atlantique. Voilà, il y a de toutes sortes de stratégies pour prendre de l'eau.
Parce que ça peut paraître contradictoire pour qu'une plante puisse survivre dans le désert, là où il y a peu d'eau, et disons un désert chaud. Il faut que, d'une certaine manière qu'elle, certes, capte de l'eau, ou de la vapeur d'eau, ou depuis la brume ou autre chose, mais aussi qu'elle n'en perde pas. Parce que s'il fait extrêmement chaud, elle peut, j'imagine, sécher extrêmement vite.
Oui, exactement. C'est là, comme les cactus qui ont les feuilles modifiées en épines, pour ne pas perdre de l'eau. Alors, il y a les deux stratégies, c'est de trouver le plus d'eau possible. Et il y a des plantes qui sont vraiment très bonnes à faire ça, pour ne pas perdre, et aussi pour capter toute l'eau possible dans le sol, avec des racines. Et de la stocker aussi pendant les saisons sèches, alors des racines qui deviennent très spécialisées en stockage d'eau, stockage de nutriments, comme la patate douce avec laquelle je travaille.
On va y venir dans un instant parce que je
m'attendais le moment de parler de la patate douce.
On y va tout de suite. Tout le monde a envie de savoir ce que vient faire la patate douce dans cette émission. Bon, on va l'apprendre dans quelques instants. Est-ce que, Anthony Herrel, on pourrait dire qu'en gros, un dromadaire, c'est un cactus sur pattes sans épines qui capte de l'eau et qui la garde?
Oui, quelque part, le dromadaire, c'est un peu un animal emblématique des déserts chauds. Voilà, tout le monde a un imaginaire autour de ça. Mais c'est un animal qui est vraiment très bien adapté à ces milieux-là. Déjà, c'est un grand mammifère, donc il a l'avantage de sa taille d'avoir un ratio volume sur surface. Donc, il a relativement peu de surface pour son volume. Donc, il a moins de surface pour évaporer. Donc, il va perdre moins d'eau, déjà. Donc, c'est l'avantage des grands mammifères qui peuvent vivre dans ces milieux-là. Ils peuvent résister à ces conditions. Il a aussi des systèmes incroyables dans son nez qui permettent de fonctionner comme une climatisation au final. Donc, il va inspirer l'air, il va refroidir quelque part avec l'évaporation le sang qui va aller au cerveau, parce que le cerveau est très sensible à des variations de température. Il va refroidir le sang qui va au cerveau. Et quand au final l'air va ressortir des poumons, ça va faire condenser l'humidité qui est dans l'air, et donc il va récupérer en plus de l'eau, de l'air sortant de son nez. Donc c'est vraiment un système qui a donné des solutions bio-inspirées au final, quoi. Donc les chercheurs s'en inspirent pour créer des solutions qui sont peu coûteuses en énergie, passives, qui permettent de refroidir et de récupérer de l'eau. En plus de ça, le dromadaire, il a aussi ses stocks de gras. Et donc le gras, c'est qui donne de l'eau métabolique, parce que quand on va utiliser du gras comme source d'énergie, ben ça va libérer un peu d'eau aussi. Et donc il a plein d'adaptations qui lui permettent d'être économe quelque part, en eau, ne pas perdre de l'eau, mais aussi refroidir en même temps dans ces milieux chauds et extrêmes.
Les bosses des dromadaires, ce sont des...
C'est du gras.
C'est du gras dans lequel il y a donc de l'eau qui peut être récupérée.
Et donc, voilà, c'est vraiment ce métabolisme particulier qui fait que quand on va métaboliser le gras, ça va libérer de l'eau interne à l'animal, évidemment, qui donc est une source supplémentaire d'eau.
Il n'y a pas une sorte de gourde à l'intérieur des bosses.
Il n'y a pas vraiment de gourde à l'intérieur, non. Pas
non,
du tout.
L'eau n'est pas stockée sous forme liquide à l'intérieur.
Elle n'est pas sous forme liquide, mais vraiment sous forme de gras quelque part. Donc c'est une source d'eau disponible pour cet animal-là.
Ce que je comprends déjà pour l'instant, c'est que l'eau liquide, franchement, on ne peut pas faire sans. C'est juste pas possible. Même à l'intérieur des feuilles des plantes, je crois me souvenir qu'il y a une sorte de petite vacuole dans laquelle l'eau est stockée, qui permet justement aux plantes de garder la forme de leur feuilles. Et tout ça, et dès que il y a plus d'eau, ça devient un petit peu embêtant pour ces feuilles. Est-ce que ce que vous venez déjà d'entendre sur le cactus et le cactus sur pattes, qui est le dromadaire, vous rappelle certaines espèces que vous avez imaginées, Momoko Seto?
Oui, alors dans ma planète aussi, j'ai un désert et j'ai un animal qui traverse le désert. Ce sont des limaces. Alors justement, je suis allée au Muséum d'Histoire Naturelle rencontrer des macologues pour raconter mon histoire et de dire que je voudrais filmer des limaces qui rétrécissent au fur et à mesure de marcher dans un milieu chaud. Et ils m'ont regardé de haut et un peu rigolé. J'ai bien précisé que c'est de la
Anthony
fiction.
Anthony Hérel est d'ailleurs en train de rigoler.
Voilà, voilà. J'ai dit que j'étais une artiste. Donc voilà, c'est une fiction. Et donc, ils m'ont dit que non. Alors, si tu veux vraiment filmer des limaces dans la chaleur, ils vont pas rétrécir, ils vont juste se mettre en boule. Et j'ai fait d'accord. Donc, j'ai un peu changé mon scénario. Mais ce qui est intéressant avec des chercheurs, c'est qu'au bout de quelques minutes, là, en l'occurrence une demi-heure, ils me disent « Ah ben, en fait, il y a des limaces qui vivent dans le désert, notamment au Maroc. » Alors j'ai dit, bah, tu vois, c'est facile n'importe quoi que ça.
Anthony Hérel, vous confirmez ?
Oui, tout à fait. Après, quand on est scientifique, on ne va pas penser à une limace dans le désert, parce que c'est un animal qui va perdre beaucoup d'eau. Donc c'est un peu contradictoire de pouvoir s'imaginer une limace dans le désert. Et c'est là qu'on a des escargots avec des coquilles qui vont être beaucoup mieux pour protéger l'animal et limiter la transpiration et l'évaporation, quoi. Donc c'est pour ça que les chercheurs, ils ont regardé au début un peu bizarrement.
Mais après, finalement, on s'y retrouve.
Mais c'est ça qui est incroyable. Quand on regarde le vivant, il y a des animaux un peu partout. Ils ont tous des adaptations incroyables qui leur permettent de survivre dans ces milieux-là.
Alors autant le dromadaire, j'imagine qu'il doit sa survie à l'existence d'oasis ou de sources d'eau dans laquelle il peut stocker certaines réserves. Mais il y a probablement d'autres animaux dans les déserts, peut-être notamment en Australie, où les animaux en question ne dépendent pas de sources d'eau existantes ou d'oasis, mais peut-être de l'eau qui existe dans l'air alors qu'il ne pleut pas.
Oui, tout à fait. Donc il y a plusieurs animaux. Donc on vient de parler du welwitschia, le Namib par exemple, c'est un désert.
C'était la plante hein, de tout à l'heure,
ouais,
c'est ça.
Oui, c'est la plante de tout à l'heure.
Ces
grandes feuilles, les feuilles qui vont capter la brume. Ben et donc il y a aussi des petits coléoptères, des petits ténébrions qui vivent là-bas. Elles vont faire la même chose. La brume arrive le matin parce qu'il y a un courant d'eau froide qui passe le long de la côte de la Namibie. Ça va évaporer l'eau. Ça va arriver sur les dunes de sable. Et donc le coléoptère va se mettre face à cette brume qui arrive et va faire condenser sur ses élytères, sur son carapace, l'eau qui va couler vers la bouche. Et en Australie, on a un lézard assez particulier, le Moloch. J'ai eu la chance d'aller là-bas et de voir cet animal incroyable.
Je viens de mettre une photo sur Instagram, parce que si vous ne la connaissez pas, il a quand même une tête absolument folle.
Oui, c'est un animal incroyable. De nouveau, c'est un as d'adaptation quelque part, parce qu'il a plein de caractéristiques qui lui permettent de survivre dans ce milieu-là. Et une des capacités qu'il a, c'est d'amener l'eau du sable mouillé vers sa bouche. Donc il a des petits canaux dans sa peau, des capillaires, donc avec un principe physique de la capillarité. L'eau va remonter, quand il est les pieds dans le sable mouillé, il va pouvoir remonter l'eau dans sa peau, dans ses petits canaux, jusqu'à sa bouche, et donc boire sans qu'il y ait de l'eau liquide vraiment autour de lui, pas de flaque d'eau ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un animal extrêmement incroyable, adapté à ces milieux vraiment extrêmement chaud et avec très peu d'eau.
En gros, il marche sur du sable, tout est sec autour de lui, il y a des petites rivières qui remontent à l'envers sur sa peau jusqu'à sa bouche.
Exactement, c'est un peu ça. Donc.
Vous y aviez pensé à ça, monsieur Momoko Seko ?
Oui, bien sûr. Non, j'avais déjà vu justement ces insectes extraordinaires qui arrivent à capter l'eau, mais ça me fait penser surtout à une fleur qui pousse dans le désert au Chili. Une fois tous les, je sais pas combien d'années, j'avais rencontré une spécialiste et en fait c'est des fleurs violettes. Et une fois tous les 2, 3 ans, 4 ans, vous me dites, mon voisin, il y a de la brume qui arrive justement du Pacifique et fleurissent comme ça dans le désert. Et je trouvais l'image incroyable.
Alors si je me trompe pas, c'est des phénomènes qui sont liés notamment à El Niño, lorsqu'il y a de l'air qui arrive et qui fait pleuvoir sur un des déserts les plus secs de la planète qui s'appelle le désert d'Atacama. Je pense que c'est à peu près tous les 6-7 ans que ça arrive, ce genre de choses. Et là, on a une floraison absolument extraordinaire. Anarita, est-ce que vous avez déjà vu ces déserts fleuris d'Atacama avec les fleurs qui arrivent partout avec des couleurs absolument splendides ?
Pas encore. Je travaille plutôt sur la fleur africaine, mais je suis très, très curieuse de voir ces phénomènes. Les plantes, elles ont des stratégies absolument incroyables. Il y a des choses qui sont presque magiques, des événements comme ça. Mais c'est une capacité très grande des plantes, pas seulement d'être passif dans un environnement comme ça, mais de chercher vraiment des stratégies, de profiter maximum de ce qu'il y a comme humidité, comme nutriments du sol. Et alors, elles font des choses magiques comme ça. Elles savent qu'il y a de la pluie et puis on des fleurs partout.
Mais peut-être, peut-être que les couleurs de ces plantes qui apparaissent dans les déserts sont spécifiques à ces déserts-là. Est-ce que les couleurs des plantes sont universelles?
Oui, tout à fait. Ben, il y a des études qui ont regardé ça. Il paraît qu'il y a vraiment une tendance des fleurs, par exemple, des endroits de désert, à être plutôt jaunes ou blanches, ou des endroits où il y a beaucoup plus d'exposition à la radiation, ça veut dire plus d'exposition au soleil, d'être plutôt violet ou rouge. Et ça, c'est pour protéger, en fait, les fleurs. Il y a
des pigments.
Des pigments, oui, qui protègent de la radiation. Et ça, c'est très intéressant, alors, de voir dans des endroits où il y a beaucoup d'exposition au soleil, vous trouverez beaucoup plus de fleurs pourpres ou rouges que dans des autres endroits, la moins d'exposition, mais qui sont assez secs aussi, mais qui n'ont pas tant d'exposition au soleil, par exemple, elles seront jaunes ou blanches.
Ça nous fait toute une symbolique pour les bouquets, tout ça. Eh bien, vu que nous parlons de ces endroits extrêmes qui sont autour de nous, nous allons écouter « Sauvage continent » de Stéphane Escher.
Mais comment deviner, comment savoir quoi faire? Quelle grimace inventée, quel fichu inventeur? Mais comment deviner le mal qu'on peut se faire? Quel feu avait couvert? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Quel terrible univers? Qu'avais-tu découvert? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent! Mais comment deviner qui ira en enfer? Ou qui paiera le prix, qui paiera le plus cher? C'est la mélancolie. Les avis diffèrent. Certains voient tout en gris. Certains deviennent amers. Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Quel terrible univers? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? La lumière qui un jour brillait, on ne peut rien y faire. Mais comment deviner que nous serions en guerre, qu'il faudrait se quitter, ne plus revenir en arrière? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Quel terrible univers? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Quel terrible univers? Qu'avais-tu découvert? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent?
Nous sommes toujours en direct avec mes trois invités, la réalisatrice Momoko Seto, le biologiste Anthony Herel, la chercheuse en botanique Anna Drita Simoes et bien sûr le public du studio 180 de la Maison de la Radio. Et nous parlons des animaux et des plantes de l'extrême.
France Inter, Big Bang, Christophe Galfard.
Anna Drita Simoes, j'ai envie de vous demander, si vous deviez emmener une graine ou une plante dans l'espace, vous prendriez quoi ?
Avant les graines de patates douces.
De patates douces, non.
Bon, c'est pas tout simplement parce que je suis passionnée, parce que j'adore la patate douce, mais c'est parce qu'il y a eu vraiment des études qui ont essayé des graines qui ont emmené des graines dans l'espace pour pour voir quelle serait la plus résistante. Et c'est vrai que les espèces proches de la patate douce, pas vraiment la patate douce, mais les liserons, des espèces ornementales, elles ont réussi à germer après 558 jours d'exposition à la radiation, à des conditions de l'espace.
Donc on ne parle pas dans la station spatiale internationale, mais à l'extérieur de la station.
Oui, bon, en fait, c'est que les scientifiques ont copié les conditions de l'espace. Après une petite mission dans l'espace, pas dans la station internationale, après ils ont vu qu'il y avait vraiment des graines qui avaient beaucoup de résistance quand ils sont retournés de l'espace. Ils ont les fait germer. Ils ont décidé de faire une expérience encore plus ciblée et de copier les conditions dans le laboratoire. C'est pour ça que c'était 558 jours, c'est le maximum qu'ils ont fait dans le laboratoire, et c'est exactement les mêmes conditions que dans l'espace, mais ailleurs de la station.
Donc en gros, ils ont pris leurs liserons, ils les ont malmenés, 158 jours dans les conditions de l'espace, ils les ont plantés, et paf, ça a germé.
Oui, c'est ça. Exactement. Ils ont résisté à toutes conditions extrêmes de radiation, de manque de... des nutriments, de l'eau, tout. C'est assez incroyable. Alors peut-être un jour, on pourra planter des hippomées.
Des hippomées, oui.
Des patates douces, des liserons.
Les liserons, hippomées, tout ça, patates douces, c'est la même famille. Donc vous suspectez fortement que ces patates douces, les graines de patates douces, survivraient elles aussi à une exposition spatiale.
Oui, exactement. Et aussi, on voit ici sur la Terre que la patate douce, elle peut pousser dans des endroits sableux, presque déserts, dans le Soudan, en Éthiopie, par exemple, où j'ai aussi fait des études. Et elle est vraiment assez très résistante, et avec l'avantage qu'elle a beaucoup plus de nutriments que d'autres plantes, si, des vitamines.
Ça, vous êtes en train de parler aux enfants qui nous écoutent.
Il faut manger la patate douce, les enfants. Moi, j'ai un fils qui m'écoute. Et brocoli aussi.
Donc, à l'intérieur, on a de la vitamine A, de la vitamine B, tout ça. À l'intérieur, la patate douce fait partie de ces tuberculeux, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que ça fait partie des racines.
C'est ça. En fait, ce n'est pas un tubercule, c'est une racine. C'est la grande différence entre les pommes de terre et la patate douce. C'est que les pommes de terre, ce sont des tubercules. Ça veut dire que c'est une tige qui fait une accumulation de l'eau. Et ça veut dire pourquoi elles ne sont pas tellement résistantes, c'est parce que c'est vraiment une tige et ça lui permet de garder de l'eau pour cette saison seulement. Par contre, la patate douce, elle accumule de l'eau, des nutriments, des minéraux dans les racines, ce qui lui permet de résister pendant beaucoup plus de saisons, des années. Et c'est pour ça aussi qu'elle est beaucoup plus résistante dans des environnements un petit peu plus difficiles, comme les déserts du Soudan, de l'Éthiopie, dans l'espace.
Non, mais très bien, c'est bon à savoir pour les futurs candidats et candidates pour aller sur Mars. On connaît le régime alimentaire auquel ils vont avoir droit là-bas. Dans le film Seul sur Mars, je me souviens, il faisait pousser des patates. C'était donc une grosse erreur. Il aurait dû faire pousser des patates douces.
Si m'avait demandé, je dirais oui, la patate douce.
Ils ont eu des mauvais conseillers scientifiques. Passons au désert froid, parce qu'il y a effectivement des endroits qui sont chauds dans l'espace, mais la plupart du temps, c'est froid. Sur Terre, le plus grand des déserts, c'est l'Antarctique, de loin. Il fait plus de 20 fois la France, avec, je crois, 12-13 millions de kilomètres carrés. Il y a des endroits hallucinamment extrêmes là-bas, les températures les plus basses jamais enregistrées sur Terre. On parle de moins 89 degrés à Vostok, la surface de la Terre à moins 110, l'air à moins 89, des endroits où il ne pleut que... Enfin, jamais, en gros. Il pleut pas. Et en une autre région polaire, on a le pôle Nord, l'Arctique, où là, on trouve quand même beaucoup d'animaux. En fait, on trouve de la vie dans les deux endroits, Anthony Herrel ?
Oui, bien sûr, on trouve de la vie dans les deux endroits polaires, soit Arctique ou Antarctique. Et c'est assez intéressant, ce milieu-là, c'est surtout des mammifères et des oiseaux qu'on va retrouver. Il y a aussi des poissons, évidemment, dans les milieux aquatiques. Des poissons qui vivent à des températures sub-zéro, parce que l'eau gèle pas, parce qu'il est salé. Et donc, c'est toute une famille de poissons qui vit à des températures à moins 3 degrés, et qui activent, qui nagent, qui font vivre leur vie. Mais surtout, mammifères oiseaux, parce que c'est ce qu'on appelle des homéothermes, des organismes comme nous qui vont produire leur propre température. Mais ça coûte cher. Coûte cher, ça veut dire que c'est un coût métabolique. Donc, faut trouver de la nourriture pour maintenir cette température. Et donc, évidemment, aussi, cette température extrême froide, ben, ça veut dire de l'isolation. Il faut s'isoler contre ces températures froides, pas perdre la chaleur. Donc, non seulement pas perdre de l'eau, mais aussi ne pas perdre du chaleur, la chaleur. Et donc, on va avoir des couches de gras, très bon isolant. Après, on va avoir des poils ou des plumes spécialisées, souvent avec différentes longueurs, qui permettent de capter des couches d'air, l'air qui est aussi un très bon isolant. Et même un ours polaire, par exemple, quand on va regarder en dessous de la peau de ses poils blancs, on va voir que la peau, elle est noire pour capter les rayons de soleil et donc réchauffer quand même l'animal, même si à l'extérieur, on ne voit pas qu'il y a du noir en dessous.
Donc les ours blancs sont noirs.
Exactement.
On apprend plein de choses. Les stratégies des gros animaux, disons, dans ces régions-là, c'est ce que vous dites, c'est pas perdre la chaleur et trouver de l'énergie. Donc, il faut bien se nourrir.
Exactement. Donc, se nourrir, ça veut dire, c'est des écosystèmes relativement simples, on va dire, qui sont très, très, très dépendants de tout ce qui est marin. La ressource alimentaire vient surtout de la mer. Et donc, la plupart de ces animaux-là vont se nourrir dans le milieu aquatique autour de ces étendues de glace. La banquise est extrêmement essentielle pour les ours polaires, par exemple. Les manchots qui vont aller en mer aussi pour chercher leur nourriture. Donc voilà, tout ça c'est lié à ces milieux marins qui entourent. Sinon, la vie ça serait très difficile pour les animaux dans les régions polaires.
Vous aimez les animaux des régions polaires, Momoko Seto ?
Oui, j'aime beaucoup et je les aime surtout quand ils sont enfermés dans des icebergs.
Gelés, complètement gelés.
Complètement gelés et qu'ils sortent de ces icebergs, ils commencent à vivre. Je trouve assez cool comme ça, comme image. Et j'avais imaginé justement dans La Dernière Planète une grenouille, une rainette qui est congelée et qui sort de l'iceberg après réchauffement. Et puis, elle va pondre des œufs et il y a des têtards qui vont arriver. Et donc, quand j'ai raconté ça aussi à une chercheuse au Muséum d'Histoire
J'imagine
Naturelle...
J'imagine que tout le monde a rigolé.
Alors, tout le monde a rigolé et elle a dit, mais c'est pas possible de sortir d'un iceberg et être en vie, être enceinte et pondre des œufs. Et j'ai dit, attention, c'est une fiction, encore une fois, et tout. Mais ce qui est intéressant, comme je vous ai raconté, c'est au bout d'une demi-heure, la chercheuse du Muséum d'Histoire Naturelle me dit, en fait, au Canada... Il y a une grenouille qui se congèle totalement en hiver, le cœur s'arrête et au printemps, le cœur commence à rebattre et la grenouille commence à vivre. Donc j'ai dit, voilà, c'est pas si n'importe quoi que ça.
On se retourne tous vers Anthony Herrel à nouveau.
Oui, tout à fait. Donc il y a des animaux qui arrivent à geler complètement, c'est possible. Évidemment, pourquoi c'est quelque chose d'un peu étonnant, c'est parce que quand on gèle, il y a des cristaux qui vont se former, les cristaux qui vont détruire les cellules. Et c'est pour ça que ces animaux ils vont produire du lentigel. Lentigel qui va faire que le système, l'animal reste complètement intact. Il n'y a pas de destruction des cellules à l'intérieur de l'animal. Et donc ça veut dire qu'il peut geler et après, quand ça réchauffe, tout le système se remet en route et donc il va de nouveau pouvoir poursuivre sa vie.
Donc l'intérieur de l'animal gèle pas vraiment ?
Elle gèle, donc elle a des températures négatives, elle est à moins 10 par exemple, mais il n'y a pas de cristaux qui se forment à l'intérieur d'un animal. Et c'est ça l'élément essentiel, parce que ces cristaux détruisent les cellules, et dans ce cas-là, il n'y a pas de vie possible après.
C'est une sorte de vraie cryogénisation. Le métabolisme s'arrête réellement complètement.
Vraiment jusqu'à zéro. Le cœur ne bat plus, donc il n'y a plus de circulation de sang dans le système, donc il n'y a pas d'oxygène qui arrive sur les organes, c'est les cellules. L'animal est en métabolisme zéro, donc il ne dépense pas d'énergie, donc il attend que ça réchauffe, et après le système se remet en route doucement dès que il fait assez chaud, au final.
En gros, ce que vous dites, c'est qu'il y a quatre manières d'affronter les périodes extraordinairement froides. Peut-être que c'est ce qui arrive sur d'autres planètes lointaines dans l'univers. Une, c'est de s'adapter complètement, de continuer à marcher, de continuer à bouger, de continuer à chasser, de trouver des choses. Une, c'est peut-être d'hiberner. Une autre, d'hiverner. Vous allez nous donner la définition de ces deux mots dans un instant. Et la quatrième que je viens d'apprendre, c'est de se retrouver congelé complètement et d'attendre les beaux jours. Donc, pour peu que les planètes soient vraiment très très loin de leur étoile, ils pourraient rester congelés des centaines de milliers d'années. Il y aura un choc au réveil dans ces cas-là. Mais oui, hiberner, Quelle est la différence entre ces deux états?
Oui, c'est une terminologie assez particulière. Donc, hibernation précise, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve chez les mammifères. Chez les reptiles, on va parler plutôt de brumation. Donc, c'est des terminologies un peu différentes. Les mammifères, il y a certains mammifères, pas tous, qui vont passer vraiment en état métabolique basse. Et donc, ils ne vont pas sortir pendant un certain temps. Le temps qui peut être variable, ça dépend des conditions. Cette hibernation, elle est induite quelque part par les changements de luminosité et de température. C'est un peu différent aussi dépendant de l'organisme. Et donc l'animal va rentrer dans un état, une sorte de sommeil. C'est différent du sommeil, hein. Il y a des gens qui ont fait des expériences, c'est pas du sommeil vraiment. Et donc l'animal va baisser son métabolisme pour ne pas dépenser de l'énergie le moins possible. Ça reste des oligothermes, donc ils maintiennent quand même leur température, mais à une température un peu inférieure. Et ils vont attendre jusqu'à ce que ça se réchauffe, et donc ils vont devenir actifs de nouveau. Après, il y a d'autres organismes, comme pas mal de reptiles, qui vont aller dans un état de métabolisme basse, mais dès qu'il fait chaud, même en plein hiver, ils vont quand même ressortir. Et donc là, c'est plus une hibernation. Donc on va avoir des périodes moins actives, hibernation, brumation, et donc on va quand même ressortir dès qu'il fait beau, pour reprendre l'activité.
Ça, c'est ce que fait l'ours, par exemple. Il hiverne.
Oui, tout à fait.
Lui, il n'est pas complètement parti, il est encore un petit peu là. Il ne faut pas le réveiller, il ne faut pas l'embêter.
Exactement. Il peut être content quand on se... Voilà.
J'ai une petite question pour vous, pour Anarita Simas. On a compris que la plante qu'elle emmènerait dans l'espace, que vous emmèneriez dans l'espace, c'est la patate douce. Si vous deviez emmener un animal, vous, sur une autre planète, qui aurait la plus grande chance de survivre, disons, pour une planète chaude, en imaginant évidemment qu'on trouve des ressources quelconques pour qu'ils puissent se nourrir ou boire, une planète chaude, vous prendriez quoi?
Une planète chaude, sans doute des animaux de petite taille, ectothermes, donc qui ne régulent pas leur propre température parce qu'ils utilisent moins d'énergie. Une fourmi argentée, par exemple. Une fourmi argentée qui résiste à des températures extrêmes, qui vit dans le Sahara, qui est très 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 bien adapté à ces milieux extrêmes chauds.
Oui, parce que le sol du Sahara doit être absolument brûlant. On parle de quel genre de température?
Oui, et donc le sol, il peut dépasser les 70 degrés, quoi. Donc c'est vraiment... Et donc la petite fourmi argentée, elle va sortir de son terrier en plein journée, mais elle a des limites absolues aussi, parce que le vivant ne peut pas survivre à des températures plus de 50 degrés, parce que c'est des réactions biochimiques, et au bout d'un moment, ces réactions biochimiques ne se font plus.
Les cellules explosent.
Les cellules explosent, tout s'arrête. Et donc ces fourmis, ils ont 3 minutes plus ou moins de survivre à cette température, avec une température de l'air qui peut être jusqu'à 54 degrés. Et donc ils vont sortir de leur terrier, essayer de trouver quelque chose à manger, et retourner dans le terrier, juste avant qu'elles vont mourir parce qu'il fait trop chaud.
Et au moins, elles sont sûres de ne pas avoir de prédateurs à ce moment-là,
j'imagine. Mais elle n'a pas de prédateurs, elle n'a pas de compétition, donc c'est les seuls qui peuvent être actifs à ce moment-là. Et donc, c'est une stratégie du vivant pour quand même survivre dans ces milieux extrêmes.
Et en désert froid, rapidement, vous prendriez quoi?
En désert froid, de nouveau, dans le froid, c'est plutôt des organismes comme des mammifères qui sont bien adaptés, grande taille, voilà, ratio volume-surface, des choses comme ça. Donc, voilà, un ours polaire.
Et ben, parfait. Nous sommes sur les moyens extrêmes, alors nous allons écouter Extreme Ways de Moby.
Dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone. you ever like a pen, I would stand in line for this. There's always room in life for this.
Nous sommes toujours en compagnie de mes trois invités, la chercheuse en botanique Anarita Simoes, le biologiste Anthony Herrel, la réalisatrice Momoko Seto et le public du studio 181 qui se prépare à poser ses questions en direct.
France Inter. Christophe Galfard. Big Bang.
Bonjour Emmanuel, vous avez une question, il me semble.
Oui, j'ai une question au sujet de l'orchidée. J'ai une orchidée à la maison que je maltraite malgré moi parce que j'oublie régulièrement de lui donner de l'eau. Quand je dis régulièrement, c'est très régulièrement. Et elle fait des fleurs gentiment, une fois par an. Et elle fait des espèces de racines. Je crois comprendre que c'est sa manière de capter l'eau. Donc, je voulais entendre savoir si l'orchidée, la grande famille des orchidées, faisait partie des plantes de l'extrême pour vous.
Anarita Simoes.
Ouais, bon, non, je dirais que non, pas vraiment. Elles sont très adaptées à beaucoup d'environnements, mais on ne trouvera pas vraiment dans des déserts ou dans des endroits très extrêmes. Elles sont assez sensibles à des conditions environnementales. On le trouvera beaucoup dans des forêts tropicales, comme ça. Ce que vous trouvez sur les orchidées, qui est assez spécial, c'est qu'elles peuvent être terrestres sur le sol, mais plutôt aussi ce qu'on appelle épiphytes. Ça veut dire qu'elles vont être sur des autres plantes. Est-ce que vous voyez les racines comme ça en l'air? C'est parce qu'elles cherchent peut-être la plante où elles sont normalement. Et c'est toute une symbiose assez compliquée entre les deux organismes. Et peut-être quand on essaie de les faire pousser dans l'appartement, c'est pas exactement la même chose qu'être sur l'arbre qui est son compagnon d'habitude, avec qui elle fait des échanges d'eau, des nutriments.
Donc les orchidées ne sont pas vraiment extrêmes. Cela dit, nous ne sommes pas allés chez Emmanuel pour vérifier les conditions qui s'y trouvent. Nous avons une question d'Inès.
Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a des animaux qui boivent leur propre transpiration ou urine pour survivre dans des endroits extrêmes?
Pour Anthony Herrel.
Oui, c'est une très bonne question. Donc la transpiration, c'est difficile de le recapturer après une fois que c'est sorti. Donc c'est vraiment la perte d'eau complète. L'urine, les animaux ne vont pas le boire en soi. Mais par contre, une des stratégies, c'est de ne pas perdre de l'eau dans l'urine. Et donc par exemple, les reptiles vont sécréter de l'urée. Donc c'est une substance solide. Donc il n'y a pas de l'eau dedans. Donc très différent de chez nous. Et donc ils ne vont pas perdre de l'eau quand ils vont faire pipi quelque part. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de on va pas sortir l'eau de l'organisme, parce qu'une fois qu'elle est sortie, elle peut évaporer, on va la perdre. Donc toutes les stratégies sont, on perd pas d'eau.
Nous avons une question de Laurence.
Oui, merci de prendre ma question. Moi, je pensais aux graines qu'on envoyait dans l'espace, et on dit que ça, les radiations spatiales peuvent provoquer des mutations, donc je me demandais si ce serait une technique pour obtenir de nouvelles espèces.
Oui, je pense que c'est...
Oui, Anna, est-ce qu'on a entendu la question ? On me fait un petit geste. Non, on n'a pas entendu. Est-ce qu'on peut répéter la question ? Pardon, nous avons eu un petit problème technique. Okay.
Donc, moi, je rebondissais.
Alors, on a un micro qui ne marche pas. Je vais peut-être, je crois avoir entendu, donc je vais la répéter. Est-ce que les radiations de l'espace peuvent avoir un impact sur l'ADN et du coup peut-être créer des mutations sur des plantes ou des animaux qu'on enverrait là-haut? Alors, il se trouve que certains rayons qui viennent notamment du Soleil ou même de plus loin dans le cosmos ont l'énergie qui est suffisante pour casser certaines liaisons dans l'ADN. C'est tout à fait exact. Et lorsque ça a lieu, soit il y a des mécanismes de réparation à l'intérieur même des organismes, auquel cas il n'y a pas vraiment de problème, soit effectivement on peut avoir ce qui a été enlevé qui est remplacé par autre chose, et là nous avons une mutation qui a lieu, et en général c'est pas très bon, les mutations. Soit elles n'ont aucun effet, soit c'est pas très bon. Mais effectivement parfois ça peut enclencher l'apparition d'une nouvelle espèce. Peut-être on peut rajouter une chose. Tout à l'heure on parlait d'hibernation. J'ai cru lire, il y a quelque temps, que certaines espèces, notamment les ours ou d'autres, lorsqu'elles hivernent, leur ADN peut se retrouver abîmé et il se reconstitue de lui-même lors de la phase de réveil derrière, quasi sans erreur. Est-ce que c'est le genre de choses que vous avez déjà vu, Anthony Herel, ou c'est un autre domaine complètement par rapport à ce que vous étudiez?
C'est pas mon domaine précisément, mais c'est vrai que l'organisme a plein d'éléments réparateurs de l'ADN. Donc on est construit parce que l'ADN se dégrade tout le temps. C'est une façon d'agir. L'âge, c'est la dégradation de l'ADN, et donc ça impacte énormément. Et donc il y a plein de mécanismes pour réparer cet ADN qui sont présents chez plein d'organismes. Notre métabolisme, le fait d'être actif, le métabolisme cellulaire dégrade l'ADN en soi. Et donc ces mécanismes réparateurs sont là qui nous permettent de vivre, de survivre au quotidien. Et donc chez certains organismes, ces mécanismes sont un peu mieux développés et qui permettent, donc pendant l'hivernation, l'ADN se dégrade un petit peu. Après, les mécanismes, quand l'animal se remet en route quelque part, ces mécanismes se mettent aussi en route et vont réparer les petites fautes. C'est pas sans faute, donc il y a quand même un impact de tout ça.
J'étais un petit peu optimiste.
Oui.
Nous avons une question d'Alain, en espérant que le micro marche à nouveau. Nous vous écoutons, Alain.
Oui, en matière de milieu hostile, vous avez évoqué l'Australie, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Vous avez évoqué également dans le grand froid les deux pôles. Maintenant, de quoi avez-vous une expérience des milieux hostiles dans les fosses abyssales, hein, où l'homme n'est jamais complètement descendu et connaît très mal ce milieu? Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les possibilités que nous avons maintenant de mieux connaître les fosses abyssales, alors que l'on connaît certainement mieux la surface de la Lune que les fosses abyssales sur Terre?
Est-ce que vous voulez répondre à ça, Anthony?
Oui, bien sûr. Donc, ces fosses abyssales, elles sont très extrêmes, évidemment. La contrainte physique, elle est vraiment la pression. On est quelques milliers de mètres sous l'eau. Donc, ça veut dire que l'eau pousse sur les organismes et donc ils doivent résister à cette pression. Donc, ça veut dire qu'on remonte des animaux de cette profondeur-là à la surface, elles vont mourir.
Ils explosent.
Donc, ça marche pas. Et donc, ces animaux sont très bien adaptés à ces milieux-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces milieux-là sont très stables. Et donc, ça veut dire qu'on va retrouver des organismes là-bas dont on retrouve des fossiles qui datent des millions d'années. Parce que, comme ces milieux sont très stables, les organismes n'ont pas beaucoup changé. Parce que le moteur de change, c'est l'environnement. Si l'environnement ne change pas, l'organisme ne change pas ou peu. Donc, c'est des milieux très stables. Et en plus, on a aussi sur ces fonds marins, sur des abysses, c'est des zones très actives sur la tectonique des plaques. Et donc là, on va avoir de la chaleur qui va être produite et des écosystèmes complètement différents de ce qu'on connaît ici au niveau terrestre, à la surface, qui sont plutôt nourris par des éléments chimiques. Donc c'est des bactéries qui vont induire tout un écosystème d'organismes qui va vivre à cette profondeur-là. Et de plus en plus, on commence à les connaître parce qu'on a les outils quand même d'aller descendre avec des petits sous-marins, pilotés ou non d'une bateau en surface, pour aller observer, voir ce qui se passe là-bas. Donc on commence à avoir un peu de données quand même.
On en arrive au moment où je vais vous faire écouter un petit son à tous les trois et on va voir si vous arrivez à reconnaître de quoi il s'agit. Alors ouvrez bien vos oreilles et écoutez. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que c'est, Momoko Seto, vous qui êtes l'artiste?
C'est très simple, c'est des mouettes.
Des mouettes, pas mal, pas mal, pas mal, ben pas du tout. Anna, Anthony, vous avez envie de tester quelque chose? C'est pas une patate douce.
Non.
Je vous donne
là,
un indice.
Ça me coince.
Ah, mais c'est pas. Oui.
Ça me fait penser à un singe, mais...
Eh ben, c'est une bonne idée, mais pas du tout non plus. Il n'y a que Anthony qui ne se lance pas. Mais je vous propose d'écouter la réponse de Dominique Berthaud, qui est chercheur en biodiversité nordique à l'Université du Québec à Rimouski, et qui nous a enregistré une explication.
Oui, alors ce qu'on entend, c'est pour moi très très évident parce que j'étudie le renard arctique depuis presque 25 ans. Puis on entend en ce moment un renard arctique qui est en train de crier dans la toundra, qui rappelle sa présence auprès de ses voisins probablement, qui défend son espace, son territoire. Et c'est une espèce qui vit en couple, qui est très territoriale. Donc chaque couple défend un espace. Et un moyen pour défendre cet espace, c'est de rappeler sa présence en criant, en laissant des odeurs. Ce qui est un petit peu difficile à imaginer, c'est que les renards arctiques, dans la toundra, sont extrêmement actifs. Ils font 30, 40, 50 kilomètres chaque jour. Et lorsqu'on les étudie pendant l'été, c'est le jour continue, le soleil ne se couche pas. Mais pourtant, la nuit existe. C'est une nuit ensoleillée, mais c'est une nuit qui existe. C'est-à-dire que le soleil est plus bas, les vents se calment, il fait plus frais, les oiseaux arrêtent de chanter. Et c'est à ce moment-là que l'on entend les renards arctiques. Le plus souvent, ils sont beaucoup plus actifs la nuit. Et donc pendant l'été, on les observe directement sur le terrain, mais pendant l'hiver, on les observe à distance avec des colliers satellitaires qu'on leur met autour du cou. Et puis pendant l'hiver, ils sont tout blancs. Souvent, c'est l'image que l'on a du renard arctique. Pendant l'été, par contre, ils ont un pelage brun qui est beaucoup plus fin, puis qui est beaucoup moins épais. Et donc pendant l'hiver, ils peuvent facilement survivre à des températures de moins 30, moins 40 degrés. Lorsqu'il fait très froid, quand c'est très venteux, ils peuvent se cacher, se mettre à l'abri du vent. Mais c'est un animal extrêmement résistant et qui peut passer des jours, parfois des semaines sans manger. Donc très très bien adapté à l'hiver. Et ils gardent leur territoire pendant l'hiver dans la toundra, mais ils font des expéditions sur la banquise. Ils vont manger des restes de phoques, par exemple, que les ours blancs ont laissés. Donc c'est un animal très très adaptable, présent un peu partout au Canada, en Russie, Islande, dans le nord de la Scandinavie également, en Alaska aussi.
Ça vous inspire quelque chose, Anthony Hérel?
Oui, tout à fait. C'est des animaux vraiment incroyables. Donc, on a des chercheurs au muséum qui sont spécialisés aussi ces renards arctiques. Et donc, c'est des animaux qui, voilà, comme ça a été dit, qui sont très spécialisés, adaptés à ce milieu quand même extrême, mais qui vont quand même jouer avec les saisons, saison froid, l'hiver, versus le saison plutôt, voilà, un peu plus propice pour la reproduction et pour se reproduire au final.
Dans l'univers, les endroits les plus extrêmes que j'imagine, moi je les vois plutôt froids, ou bien peut-être pour accueillir la vie, peut-être les fonds d'océans lointains. Mais il y a quand même un endroit sur Terre qui est imbattable, qui est l'Antarctique, avec ses moins 110 degrés au sol, moins 89 degrés dans l'air. Il y a une région qui s'appelle la vallée sèche, qui, comme son nom l'indique, est sèche. Et là, on trouve aussi, il pleut absolument jamais. Et les vents viennent balayer les sols à plus de 300 km à l'heure. Et on y trouve quand même à l'intérieur des fissures, des roches, des minuscules organismes qui arrivent à survivre et qui pourraient peut-être donner vie à quelque chose sur notre planète. En tout cas, c'est ce que les gens imaginent éventuellement pour Mars. C'était Big Bang. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à Dominique Berthaud de nous avoir fait voyager avec le cri du renard polaire. Merci à vous, Momoko Seto. Votre film Planète sera au cinéma à partir de mercredi prochain, le 11 mars. Anthony Herrel, Anarita Simoes, merci beaucoup à vous deux. Merci au public du studio 181 de la Maison de la Radio. Cette émission a été réalisée par Antoine Larcher, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la vidéo Guillaume Ficheux, à la technique Sofiane Aktib et Clémence Arel, notre stagiaire. Merci beaucoup à la préparation et à la programmation. Nous avions la fabuleuse Élodie Royer. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour deux émissions. Une sur la géométrie. Et oui, nous enregistrerons une émission pour Pi, le jour de Pi. Et une autre sur la mémoire. La billetterie vient d'ouvrir et vous pouvez réserver vos places sur le site de la Maison de la Radio. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les émissions Big Bang en podcast sur l'application Radio France et toutes les plateformes de streaming. Tout de suite, après le journal, ce sera votre grand face-à-face, cher Thomas Negaroff. J'imagine que vous allez parler de rapports amicaux tout à l'heure.
Pas vraiment, Christophe. À midi, un grand coup de poignard dans le dos. La trahison au programme du grand face-à-face avec la chercheuse en psychologie sociale Fanny Lalot.